RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui nos trois grandes gueules, Fatima Hildboudouin, la prof de français, Antoine Dirce, ce consultant juridique, et puis nous sommes avec Abel Bouilly, l'éducateur. La suite des GG, la suite des grandes gueules, tout à l'heure à 11h, on recevra Tuc Duhal Denis, la cendre et le feu de notre confrère de Valeurs Actuelles. Il se raconte, et à travers son parcours personnel, qui a toujours été ancré à droite, il parle de la droite telle qu'aujourd'hui il aimerait la voir arriver au pouvoir aussi, et à travers ses échecs, ses succès. La cendre et le feu, Tuc Duhal Denis tout à l'heure dans les grandes gueules, est-ce qu'il a choisi son candidat, tiens, Tuc Duhal, pour la présidentielle de 2027? D'ici là, dans les GG, on va parler de la grève SNCF. Est-ce que c'est une grève pour rien? Patrick Bruel, est-ce qu'il doit aller en prison? Est-ce qu'il doit être incarcéré? Mais on va commencer par évoquer des soirées pyjama. En fait, on voit que la mort, le drame, le meurtre de la petite Liana, aujourd'hui, ravive les angoisses des familles. Il suffit de se reporter au forum, au réseau, au questionnement notamment sur la presse familiale, et le questionnement sur les goûters et les soirées pyjama.
Oui, parce que les parents de Liana avaient commencé à se poser des questions sur le comportement de Jérôme Barella après une soirée pyjama organisée chez Jérôme Barella, qui est le père d'une des amies de Liana. On parlait de chatouille, de comportement inapproprié avec des enfants, et les parents de Liana avaient dit à leur fille: maintenant, je veux plus que tu le vois, cet homme. Malheureusement, elle avait continué à le voir sans qu'il le sache. Donc c'est vrai qu'on se pose la question des soirées pyjama. Alors est-ce qu'il faut céder à la psychose et interdire à nos enfants d'aller à des soirées pyjama quand on n'est pas vraiment qui sont les parents invitants, ou est-ce qu'il faut quand même à un moment donné laisser aux enfants avoir une vie sociale et pas paniquer pour tout?
32-16 pour le dire au GG, Fatima.
Bah écoutez, moi je trouve ça culotté de parler de psychose. C'est pas de la psychose, c'est de la prudence. Et c'est normal. On a eu un témoignage juste avant de Sébastien qui nous disait voilà, il a confié sa fille 5 ans aux voisins. C'était même pas soirée pyjama. Des voisins qui avaient l'air très bien.
Bien sous tout rapport.
Mais c'est toujours comme ça. Regardez, à chaque fois qu'on a des tueurs en série, on a toujours le voisin: oh, c'est bizarre, il était gentil, il disait bonjour en sortant les poubelles. C'est pas écrit sur notre visage qu'on est un pédocriminel. D'autant plus que les pédocriminels, souvent, sont très sympathiques, sont gentils avec les enfants, sont souriants. Et non pas, il y a des gens qui ont des têtes patibulaires et qui ne toucheraient pas un enfant. Et inversement, le petit voisin sympathique, ça va être lui. Donc moi, pour moi, ce n'est pas une psychose, c'est de la prudence. Maintenant, si moi, par exemple, j'invite des camarades de mes enfants à dormir à la maison, si les parents me posent des questions, par exemple, qui sera présent dans le domicile? Est-ce qu'il y a un oncle qui est là? Est-ce que vous avez un plus grand fils? Est-ce que je répondrai à ces questions et je me sentirai pas du tout offusquée. Je trouverai ça normal. Si une maman, je sais pas, si j'avais une fille et qu'une petite fille vient chez moi et que la maman dit: est-ce qu'il y a un grand frère? Est-ce qu'il y a un cousin? Est-ce que le papa sera présent? Où va-t-elle dormir? Si on me pose des questions pour avoir des garanties, je répondrai à ces questions. Je ne la trouverai pas du tout, je trouverai ça normal. Elle me confie quelque chose de très précieux. Elle prend ses précautions. Et pareil, pour des parents qui me disent: moi, mon enfant n'ira pas dormir avant tel âge, avant 10 ans, parce que j'ai envie qu'il sache parler, qu'il sache se défendre, qu'il sache repérer une situation, j'ai envie de mettre en place des choses avant, je comprendrai aussi. Pour moi, c'est cas par cas, famille par famille, personnalité de l'enfant aussi à prendre en compte. Donc je trouve ça normal de se poser la question.
Antoine?
Bon, moi j'ai pas d'enfant, c'est difficile pour moi d'en parler, mais effectivement, dans la période dans laquelle on vit, je me dis que si je devais avoir des enfants, qui plus est des petites filles ou des jeunes filles, ben je serais complètement terrorisé. Enfin, moi, je ne peux qu'imaginer la chose. Et déjà qu'on se disait, On peut pas les laisser sortir à 15 ans dans la rue le soir pour aller boire un verre avec des copines parce que c'est trop dangereux dans la rue. Maintenant, si c'est même trop dangereux dans les soirées pyjama chez des amis, chez les parents de leurs camarades de classe, etc., bah effectivement, faire des enfants aujourd'hui, ça devient compliqué. Et j'imagine, si j'avais des enfants, les faire vivre quand même dans un environnement assez restreint. Parce que tout est devenu très dangereux.
Ou leur donner les moyens de se défendre aussi.
Mais salon.
Leur donner les moyens de se défendre et de
quand je dis dans un environnement très restreint, ce serait chez quelques amis que je connais depuis 20 ans, que je connais par cœur. Mais effectivement, elle rentrerait en disant, papa, il y a ma copine qui m'a dit, est-ce que je peux aller dormir chez elle? Bah, je connais pas ses parents ou je les ai vus de loin, mais je dirais non. Oui. Et donc, t'imagines l'enfer, effectivement. Et je passerais pour le père tortionnaire, tyran, méchant. Non,
tu peux leur expliquer. Je pense que les enfants comprennent. Moi, si c'est dormir, je dirais, j'aimerais bien rencontrer ces parents-là. Ouais, et on se rencontre.
Tu les rencontres, mais en fait, tu te fais un avis. Oui, mais les parents d'Yana connaissaient les parents.
Ouais, mais ils avaient
craintes ou la prudence de certains parents sur les soirées pyjama, ça date pas d'aujourd'hui. Moi, ma mère m'a toujours interdit les soirées pyjama. On était dans les années 80 parce qu'il y avait déjà eu des cas d'enfants violés. Moi, j'ai accompagné le cas d'une fille de 11 ans qui s'est faite violer par le père de l'ami chez qui elle était dans la soirée pyjama. Mmh. Elle en est même tombée enceinte.
Et pardon, à quel âge?
11 ans.
Non.
Ah mais si, mais ce qu'on voit sur le terrain, moi je peux écrire un bouquin. Hein. Des histoires, des lianes, il y en a des milliers. Ça, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien.
C'est pour ça qu'on est en colère.
On peut aller plus loin. Donc, effectivement, dépôt de plainte, la justice au rabais. Avortement, donc t'imagines à 11 ans avec accompagnement des parents. Et le gars, il vivait à côté puisque c'était dans le même coin. Et un an après, le mec, il a encore essayé de kidnapper la fille, tu vois. Donc le père, il s'est fait justice lui-même, il a défoncé le mec. Mais le mec, il a porté plainte contre le père. Et c'est voilà. Le père qui a eu toutes les ennuis judiciaires derrière. Donc des cas comme ça, il y en a plein. Et c'est pour ça que des fois, quand on est sur le terrain... Moi, je remercie les grandes gueules et je veux vraiment mettre les grandes gueules à part, mais des fois, on voit des choses sur le terrain et quand ça arrive dans les médias, la sphère médiatique présente les choses comme si c'était nouveau. Mmh. Et souvent, on est sur le terrain, on se dit, mais ça existe depuis des années, pourquoi c'est présenté comme si c'est nouveau? Il y a des escrocs, des fois, des fausses associations qui viennent sur les plateaux, qui sont des associations coquilles, qui viennent dire, nous, on fait ci, on fait ça, nous, on sait qu'elles foutent rien au quotidien. Donc la pédocriminalité, c'est un problème. Les soirées pyjama, moi je pense qu'il faut pas tomber dans la psychose parce que l'immense majorité des soirées pyjama se passent bien. Paradoxalement, j'ai reçu des copines de ma fille qui a 10 ans pour des soirées pyjama. Ça s'est toujours bien passé, il y a un lien de confiance. J'ai pu laisser ma fille à y aller rarement, mais y aller parce que vraiment on se connaissait bien. Et aussi parce qu'on est deux couples de parents aussi qui sont très alertes sur les questions de pédocriminalité déjà. Donc on a les mêmes convictions, on se donne toutes les informations qu'il faut, mais même ma fille aujourd'hui qui a 18-19 ans, quand elle me dit elle veut dormir chez une copine, moi je lui demande, est-ce qu'il y aura des gars
sur le père que je pose toutes les questions. Je vais prendre un exemple, mais c'est pas sur le ton de la rigolade. Imagine, voilà, tu fais une soirée pyjama chez toi. D'accord, tu as les parents et puis je sais pas, c'est ton épouse qui s'en occupe, ils sont une pièce à côté, toi tu vas prendre ta douche et puis d'un coup, tu je sais pas, t'écoutes de la musique, tu sors, t'es en caleçon. Le lendemain et tu passes juste comme ça. Le lendemain, il y a une des enfants ou un des enfants qui raconte et qui dit alors c'est bien passé ta soirée pyjama? Ah ouais, puis on a rigolé parce que le papa est passé en slip. Tu vois, et tu dis ça comme ça de manière innocente. Comment tu vois à quel point on peut tomber aujourd'hui alors que t'es peut-être juste passé. La fille, le père, il réagit. Le lendemain, il vient, il dit monsieur, vous êtes passé en slip devant mes enfants. Toi, tu dis non, je vous assure, monsieur, je sortais de la douche, je rentrais du travail, je venais de faire mon sport.
Je vais rebondir sur les. Et merci de poser cet exemple parce que je comptais le dire et je t'ai un pavé dans la mare. Moi, quand je reçois les enfants d'autres personnes, je fais beaucoup plus attention, déjà. Et deuxièmement, il y a un sujet. Déjà, on sait très bien que parmi beaucoup d'enfants qui subissent des violences sexuelles, certains deviendront des pédophiles ou des pédocriminels. Ça, on le sait. Mais il y a une autre chose qui est très taboue dans la société, et peut-être que je vais me faire taper dessus en le disant. Tu as des parents incestueux, donc pédocriminels, et tu as des parents qui entretiennent un climat incestuel à la maison. Voilà. C'est différent. C'est-à-dire qu'ils peuvent être le meilleur père ou la meilleure mère au monde, mais qui se baladent à poil devant les enfants. certains parents qui embrassent les enfants sur la bouche jusqu'à des 15-16 ans, certains parents qui prennent des bains, des douches avec leurs enfants tout nus. Jusqu'à des 11, 12, 13 ans, l'enfant, il prend le bain avec sa mère et tout. Après, ce que ça fait? Moi, j'ai eu des potes quand j'étais comme ça à l'école primaire qui prenaient des bains, au collège qui prenaient des bains avec leur mère tout nu. Et quand tu rentres dans l'adolescence, commences à parler sexualité, corps de la femme, ben, les gens, ils nous parlaient de la poitrine de leur mère, de l'entrejambe de leur mère, du derrière de leur mère, parce qu'ils prenaient, certains prenaient des bains encore tout nu avec leur mère. Donc ça, c'est un climat. Je sais que beaucoup de parents seront pas d'accord. Tu peux être un très bon parent, instaurer un climat incestuel dans la maison. Et quand, pardon, tu reçois les enfants de quelqu'un et que tu fais pas attention, franchement, non, moi personnellement, c'est un propos qui n'engage que moi, mais non. Tu peux pas te faire gauler par l'enfant de quelqu'un en train de se balader à moitié.
Et puis ensuite, on écoutera Laetitia.
Moi, je pense, parce qu'on dit, on a peur de la psychose, faut avoir peur de l'inverse. Les pédocriminels, ils profitent de notre naïveté. Parce que c'est comme le mal, c'est vraiment cette phrase. Le mal fait croire, c'est comme le diable a fait croire qu'il n'existait pas. Les gens qui ne pensent pas comme ça ne vont pas imaginer le pire. Voilà, moi je vous disais la dernière fois, quand je vois un bébé, j'ai envie de le protéger. Un pédocriminel ne voit pas un bébé, il voit un objet qu'il pourra utiliser, déjà. Donc, eux profitent de notre naïveté. Le fait qu'on soit, grâce à ces histoires qu'on nous raconte, grâce au fait qu'on nous dit c'est toutes les 3 minutes, donc ce n'est pas anecdotique, vous voyez, le compteur augmente là depuis le début de l'émission. D'avoir ça en tête, ça nous rend plus prudents. Et effectivement, il va falloir changer des habitudes, peut-être pour certains, il y a des comportements. Moi, effectivement, je ne vais pas toucher mes élèves. Je vais faire attention à ma manière de les toucher. Je vais pas toucher plus un enfant qu'un autre. Et les enfants savent très bien, parce que la dernière fois, je leur demandais aux élèves, ils savent très bien reconnaître les petites ambiguïtés. Et juste un petit truc, même pour les sorties scolaires, c'est pas comme avant. Je suis sortie hier soir au théâtre avec mes élèves. On est allé voir justement une pièce de. On est allé voir Antigone. Mise en scène par Andréa Bescon, et on a une vingtaine d'élèves comme ça. Certains parents ne voulaient pas laisser sortir leur fille. Je les ai rassurés. Donc je les ai appelés quand on quittait le théâtre, et je l'ai fait. Je trouve ça normal. Je me suis pas dit ah là là, qu'est-ce qu'elle est relou cette maman. Non, je me suis dit mais bien entendu, elle me confie la chair de sa chair. Donc on rassure, on est là, on évite l'ambiguïté.
Et Laetitia, bonjour.
Bonjour.
Professeur des écoles, soirée pyjama, on continue, on est très vigilant, on est dans la psychose aujourd'hui, dites-moi.
Alors moi, ce qui s'est passé, c'est quand ma fille avait 8 ans, j'ai des parents d'une copine à elle qui étaient, on les connaissait depuis très peu, hein, et qui nous ont laissé leur fille dormir à la maison. Mais comme ça, ils ont donné, est-ce que tu peux la récupérer? Bah tiens, voilà ton sac, et puis tu peux l'emmener à l'école demain matin. Donc j'ai trouvé ça déjà un petit peu bizarre. Après, ça serait très bien passé chez nous. Aucun souci. Et puis après, cette même famille a insisté pas mal de fois. Est-ce qu'elle pourrait venir faire une soirée pyjama? Elle aimerait bien faire une soirée pyjama. On aimerait bien l'inviter, mais vraiment plusieurs années de suite, avec insistance. Et il y avait des comportements chez l'un des parents qui posait des questions. Voilà, du vocabulaire, des chatouilles, des façons de se tenir. Donc je le sentais pas. En tant que maman, je le sentais pas. Donc alors elle a pu dormir chez plein d'autres copines. Mais ici, je pense que des fois on a des signaux ou alors on le sent pas. Donc on est parents, si on le sent pas.
Et votre intuition s'est avérée ou pas finalement?
Grand Dieu, j'espère que non. Mais elle y est toujours pas allée en tout cas, même avec insistance. Voilà, pour l'instant, même si c'est proposé, c'est hors de question. Alors elle dort ici. Je préfère que leur fille dorme à la maison.
Exactement. Donc il faut savoir s'écouter, ressentir et être prudent. Laetitia, restez avec nous pour écouter Hurier, qui nous appelle des Alpes de Haute-Provence. Bonjour Hurier.
Allô, bonjour.
Bonjour. Vous-même, vous voulez réagir à ces soirées pyjama, alors, parce que ça fait résonner quelque chose en vous, dites-nous.
Ben, moi, perso, de toute façon, je suis contre. Moi, depuis que ma fille est petite, j'ai toujours dit, puis elle a toujours compris, parce que bon, je lui ai expliqué. Que ce soit la famille, les copines, tout ça, c'est comme le dit plus d'avant. J'ai dit, tu peux inviter qui tu veux, mais toi, tu découches pas, c'est mort. Surtout quand il y a des grands frères, les papas à la maison.
Exactement.
Là, c'est mort. Je lui dis, tu peux inviter qui tu veux, parce que bon, je fais pas l'égoïste, parce que je peux pas dire, moi, il y a le papa à la maison, tu viens, mais toi, tu vas pas chez les gens. Moi, mon mari est en déplacement la semaine, donc je suis toute seule. J'ai dit, tu peux inviter tes copines, mais toi, tu bouges pas. Et elle a toujours compris, donc ça s'est super bien passé. Et ce que je voulais raconter, c'est justement, moi, j'habitais il y a 1 ou 2 ans dans un quartier, dans un immeuble. J'avais le voisin du dessus, un homme charmant, gentil, et il avait déjà 3 enfants. Et c'est vrai que il y avait beaucoup d'enfants autour d'eux. Et je me disais, moi, maman, j'ai tellement à faire avec trois enfants. Qu'est-ce qu'il a, lui, à en plus se compliquer la vie? Je pense que toutes les mamans comprendront. Je veux dire, avec trois, vous avez déjà à faire. Qu'est-ce que vous allez... Et du coup, tous les copains, les petits du quartier, ils venaient, ils sortaient. Et bon, c'était un mec normal, enfin, tout bien et normal, gentil, papa, il s'occupait bien des enfants, tout ça. Et bon, un bout d'un moment, bon, il a disparu, il n'était plus dans les parages. Et sa femme, elle avait dit qu'il était allé voir son papa malade, tout ça. Et un jour, je suis à la maison, et ça toque, c'est la police. Ils me disent, madame, est-ce que vous êtes disponible pour que vous montiez avec nous à l'étage au-dessus pour perquisitionner la maison, il faut que vous soyez témoin. Je dis, mais pourquoi faire, qu'est-ce qui se passe? Je dis, oui, je viens. Et là, j'apprends que le monsieur est en prison, il est accusé de viol et d'abus sexuels.
Voilà.
Sur son téléphone, ils ont retrouvé toutes les images des petites qui prenaient en photo et qui mettaient sur le site. Et je pense aussi qu'il y a des attouchements. Il y a une des filles qui rentrait et sortait dans la maison qui a porté plainte. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont retrouvé sa trace, tout ça. Et on était chaud. Parce que on n'aurait pas dit quoi, c'était notre voisin, il nous aidait à monter les courses, il était super sympa, machin truc. Donc là, je me suis réconfortée dans mes pensées. Mes enfants, que fille ou garçon, ils bougent pas.
Donc vos intuitions étaient aussi les bonnes, votre précaution, votre prévention, Antoine.
C'est un témoignage très très troublant, mais dans les propos de Hurier comme dans ceux de Fatima, j'ai entendu à plusieurs reprises, je demande s'il y a un homme à la maison, un oncle, un frère, un père. Et en fait, moi je me sens un tout petit peu gêné d'entendre ça, comme si tous les hommes pouvaient être dangereux. Et donc en fait, il peut y avoir un père, un frère, et ça peut très bien se passer aussi.
Mais j'ai des pères et des frères.
À deux reprises, je me suis dit, waouh, moi je suis un homme, et là d'un seul coup, je suis dans le désert.
Je donnais le type de question qu'on me pose. C'est-à-dire
moi aussi,
que vraiment,
je pose la question. Je vois les
parents, ce qu'ils vont me demander, ou par exemple pour les colonies, on demande l'animateur, est-ce que c'est un homme? Les parents, ils vont plus demander ça. Après, là où je suis d'accord avec toi, Lola, elle n'a pas été tuée par un homme, elle a été tuée par une. Et c'est une pédocriminelle aussi, parce qu'il y a eu une dimension sexuelle dans l'affaire Lola. Donc les femmes peuvent être des prédatrices, et il y a des mères qui. Et c'est un sujet tabou aussi, mais il y a aussi des mères qui violent leurs enfants.
Laetitia et Hurier, je vous remercie de vos témoignages à toutes les deux. Merci d'être intervenu dans les GG, Hurier et Laetitia. Merci à vous deux. Bonne journée. Soirée pyjama. Est-ce qu'on tombe dans la psychose? Est-ce qu'on est prudent? Est-ce qu'il faut arrêter? Cédez-vous à la psychose?
C'est le mot psychose qui. Les gens se disent, c'est pas céder à la
psychose. C'est pas la psychose, c'est la prudence plutôt. 55-45. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, Patrick Bruel, déféré devant trois juges, détention provisoire requise. Sa place est-elle en prison? Il est 10h20. Vous venez en discuter avec les grandes gueules. Reste avec nous sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Fatima Hidbounois, avec Antoine Dierce, avec Abel Boyer, l'éducateur, le consultant juridique, la prof, le dossier Bruel. Patrick Bruel va-t-il aller en prison? C'est bien possible. J'ai le communiqué là, du procureur de la République. Patrick Bruel est déféré ce jour au parquet de Nanterre aux fins de présentation devant trois juges d'instruction à l'issue de sa garde à vue. Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre et sa mise en examen pour des faits de viol, tentative de viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel, concernant 9 victimes des faits commis entre 2010 et 2019. Voilà. Et maintenant, est-ce qu'il va aller en détention provisoire? C'est toute la question.
Sachant qu'il y a 13 autres personnes dans la procédure qui vont être rajoutées donc à cette information judiciaire, mais on ne sait pas sur ces 13 personnes si c'est pas prescrit. Et donc le parquet dit on va vérifier s'il y a prescription ou pas. En tout cas, on va quand même examiner parce que ça donne une connaissance globale des faits qu'on peut reprocher à Patrick Bruel. Donc on a un artiste de 67 ans qui va peut-être ce soir dormir en prison. En tout cas, c'était requis par le parquet. Et si c'est pas la prison, il y aura sans doute donc une mise en examen, quoi qu'il arrive, mais un contrôle judiciaire. Alors, contrôle judiciaire qui peut être très strict, comme certaines de ces plaintes sont faites dans un cadre professionnel, peut-être qu'on peut interdire à Patrick Bruel tout simplement de se produire sur scène pour pas être en contact avec des victimes potentielles. On va voir, ça va se savoir dans les heures qui viennent. Trois juges d'instruction quand même mobilisés. Donc on voit que là on met les moyens. Il y a beaucoup de débats sur les moyens de la justice. Ces moyens sont là. Il y a un contexte aussi, et on peut imaginer que effectivement dans ce contexte, Patrick Bruel, on le lâchera pas.
Qu'est-ce que vous en dites ?
Alors moi j'ai pu dire à plusieurs reprises ce que je pensais, mais je vais essayer d'être honnête intellectuellement. Il y a un contexte qui fait que il va prendre cher de toute façon. Je pense qu'il va être utilisé comme exemple. Maintenant, je pense que tu as parlé de faits qui datent entre 2010 et 2019. Ça tord le cou à toutes les personnes qui disaient que tous les faits étaient prescrits. Donc voilà.
Là, il y en a neuf hein, sur cela.
Oui, bien entendu. Mais voilà, donc tout n'est pas prescrit. Et je pense que si la réquisition est celle-ci, c'est quand même qu'il semble y avoir des faits assez corroborants et surtout un modus operandi qui semble avoir été retrouvé dans plusieurs cas pour que cette demande ait été faite. Donc, pour moi, si les faits sont avérés, et je mets bien si les faits sont avérés, Patrick Bruel est un criminel et doit aller en prison. Maintenant, on attend de voir ce qui va se passer.
Mais là, on parle de détention provisoire.
Oui, mais bien entendu.
Il y a deux choses. Voilà. Là-dessus, moi, je veux être assez clair. Je comprends la période où tout le monde est très à cran sur le sujet. Si Patrick Bruel est reconnu coupable, qu'il fasse de la prison.
Surtout que la détention provisoire, c'est l'exception, c'est pas la règle.
Hein. Exactement. Rappelez,
selon le code pénal.
Faudrait-il qu'il soit mis en prison avant même son procès?
Et oui, il faut des conditions, la fuite, les victimes, tout ça. Oui, bien entendu.
Clairement, faut pas s'attendre, ou alors ça me surprendrait beaucoup et ce serait probablement un excès de la justice dans la période. Faut pas s'attendre à ce qu'il soit en prison ce soir. Mais qu'il y ait des mesures d'assignation à domicile, je suis pas un spécialiste de procédure pénale, etc. Mais qu'il soit sous bracelet électronique chez lui, qu'il ne puisse plus faire ses concerts, etc. Oui, pour préserver d'éventuelles nouvelles victimes, etc. Mais qu'on le mette en prison à tout prix, juste pour faire un exemple, ça paraîtrait quand même très étonnant.
Alors, pour la détention provisoire, il y a quatre critères. Hein. Risque que la personne détruise les preuves ou fasse pression sur les témoins ou les victimes. Détention provisoire, c'est aussi pour empêcher la fuite, risque de cavale, le juge regarde la peine encourue, les attache en France au casier, protection de l'ordre public, si la remise en liberté cause un trouble à l'ordre public, surtout pour les crimes graves. Et c'est la détention provisoire, c'est aussi pour garantir la présence au procès, s'assurer que la personne se présentera au tribunal. Quant à l'infraction, ça c'est pour la personne, hein. Après la détention provisoire concernant l'infraction, s'assurer que c'est un crime ou délit puni d'au moins 3 ans de prison et de faits suffisamment graves qui doivent justement justifier la détention provisoire à la prison.
Il y a peut-être des modalités aussi de détention. Tu peux peut-être rester chez toi avec un bracelet, non ?
Là, simplement, les critères requis pour la détention provisoire.
Voilà. Moi, j'observe un peu, depuis le début, cette affaire Patrick Bruel. Et ce que je regrette un peu, c'est qu'on a l'impression... Et surtout, sur les plateaux, comment c'est relayé, l'impression que ça donne, c'est que d'un côté, on a les gens qui défendent Patrick Bruel parce que c'est Patrick Bruel. Donc voilà, c'est mon ami. Voilà, les fans qui vont dire non, mais c'est impossible. Et voilà, parce que c'est lui, on ne veut même pas se poser la question. Et de l'autre côté, ceux qui veulent la peau de Patrick Bruel parce que c'est Patrick Bruel. Mais moi, je pense que l'immense majorité des gens veulent juste que Patrick Bruel soit traité comme n'importe qui. Comme n'importe qui, et ça veut dire que
mais
la justice...
Mais le problème, c'est qu'il n'est pas n'importe qui, c'est forcément
en vrai,
biaisé.
La demande profonde, c'est ni traitement de faveur, on ne veut pas qu'une star soit mieux traitée, puisse être violeur, parce que comme c'est une star, tu comprends, il est intouchable, donc on ne veut pas de personne intouchable, comme ce magistrat-là, qui finalement a pu violer des enfants, enfin non, qui avait mis sa fille sur les réseaux,
12 ans,
et comme c'était
prison,
un magistrat, finalement, la peine, ça c'est incompréhensible. Donc on ne veut pas de traitement de faveur en fonction de la personne, et on ne veut pas non plus de zèle ou de d'esbrouf comme ça pour faire un exemple, pour dire, regardez, maintenant, tout va bien, on vous a mis, le peuple veut de la chair, on vous jette sa chair.
Mais là,
on veut juste un fonctionnement
Fatima,
normal.
Ça, et j'ai l'impression... Mais c'est pas possible.
C'est précisément parce que c'est Patrick Bruel qu'il est dans cette situation.
Non, mais surtout,
ça aurait été Jean-Michel garagiste à Vesoul. Il n'aurait jamais
Alors, on rajoute parce que c'est Patrick Bruel et parce qu'il y a beaucoup de plaignantes aussi.
Mais il y a quand même
un nombre de faits.
J'ai pas nié qu'il y ait beaucoup de faits.
Il y a les deux.
Moi, je veux qu'il soit traité comme n'importe qui.
Oui, mais il ne sera pas traité comme n'importe qui, on le sait bien.
Quelqu'un qui a eu 13 personnes qui portent plainte contre cette personne, on va dire...
Oui, mais toi-même, Fatima, tu viens de donner la réponse à ta question.
Depuis hier, il y a 4 plaintes supplémentaires.
Si ce soir, il ne dort pas en prison, on va avoir des militantes qui vont dire « Oui, vous voyez, Patrick Bruel est protégé, il y a eu 13 plaintes, c'est quand même pas possible. » Et s'il dort en prison, on va dire, ah ben, voyez, de façon, maintenant, on veut faire des exemples. Et Bruel, comme c'est un artiste, tout le monde en parle, eh bien, on fait un exemple pour la société. Moi, de toute manière, c'est biaisé. Et ce qui est biaisé comme c'est une personnalité publique artistique, c'est-à-dire que sa carrière est déjà terminée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une condamnation médiatique et sociale, de fait, quelle que soit l'issue du procès. On voit bien qu'il ne peut plus chanter et qu'a priori, ses concerts, les prochains, il va devoir les annuler aussi parce que, de toute manière, il y aura des manifs. Enfin, ça va être le foutoir.
On va s'apitoyer sur son sort pour ça.
Je ne m'apitoie pas.
C'est mérité.
Mais s'il était garagiste, il n'y aurait pas le même... Je reprends l'exemple d'Antoine Diaz. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que c'est injusticiable comme un autre. On le dit, c'est démagogue.
Non, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que ce qu'on attend de la justice, que j'attends de la justice, et ce que j'attends aussi de nos réactions, c'est que ce soit le fils, le père, le voisin, le frère ou Patrick Bruel,
tu comprends quelque chose dans la justice,
soit du côté de la victime. Voilà, on est du côté de la victime.
Problème, c'est
et
son entourage disait, bah oui, mais Patrick Bruel, on lui a jamais dit non. Tu vois. Donc c'est est-ce qualité aussi Patrick
l'enfant
Bruel,
roi, c'est ce que je voulais dire.
Voilà,
l'enfant roi.
Son statut, sa gloire, sa notoriété, son pouvoir que ça lui conférait, usé et abusé, justement aussi sur des femmes.
Exactement.
Donc parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas dit non, parce qu'ils disent si Bruel, il va m'arriver des ennuis. Parce que si je me rebelle, qu'est-ce qui va se passer ensuite?
Donc lui-même, il a abusé
aussi de ce pouvoir et de sa notoriété. Donc si tu veux, voilà.
Mais attends, vrai sujet.
Il est coincé.
C'est pas parce que quelqu'un pense qu'il peut pas te dire non que tu en abuses nécessairement. Tu vois, la question, elle est très complexe. Elles n'ont peut-être pas dit non parce que c'était Patrick Bruel, mais Patrick Bruel a-t-il réellement abusé de sa position? On lui avait pas dit non.
Tu
vois, tout le sujet, il est là. J'essaye pas de défendre quoi que ce soit, mais j'essaye de te dire que j'aimerais pas être un homme connu
tout à l'heure,
et beau. En fait, ça doit être terrible d'être un bel homme aujourd'hui, star, parce que tu te dis, waouh, j'ai une opportunité avec une femme, mais est-ce qu'elle va pas me dire qu'elle a pas pu me dire non parce qu'en
on enlève Patrick Bruel. À chaque fois qu'une personne est accusée de viol, déjà, tu vois jamais l'homme dire c'est vrai, j'ai violé. Jamais. Quasiment. Allez, 99,9% disent c'était une relation consentie. Et c'est là où je reviens sur le principe de la dissociation. C'est-à-dire que le criminel, puisque le violeur c'est un criminel, là je parle pas de Patrick Bruel, il est face à sa proie, la personne se laisse faire et lui il pense que la personne veut, alors que la personne est dans un état de choc et de sidération tel en fait qu'il y a un blackout, elle se laisse faire. Le gars, il finit, il s'en va et il dit « Ah ben, c'était consenti parce qu'elle n'a pas dit non, parce qu'elle ne s'est pas débattue et parce qu'en plus, on a même gardé contact après. » Ça veut rien dire.
Tu viens de décrire toute l'histoire de l'humanité et des relations hommes-femmes. C'est-à-dire que elle était subjuguée devant son charme, elle n'a pas dit non.
Je te parle de dissociation suite à un choc.
Est-ce que l'amour n'est pas déjà une emprise?
Voilà, c'est exactement ce que
je veux dire. Là, vous déformez mon propos.
Non, mais là, j'en ai non, je mets de côté.
Vous déformez ce qu'il vient de dire.
Ah oui, parce que j'ai pas dit
non,
ça.
Non, mais je mets
tout,
de côté la prise. Mais l'amour est une sorte d'emprise. Bah, je parle pas de Patrick Bruel, hein. Je sais pas ce qu'il a fait, on verra.
C'est pas des relations amoureuses.
Quand
Flavie Flamand dit que on lui aurait servi un thé à ses réveillons, lui remettait un pantalon. Il y avait même un service après-vente.
Oui, d'accord. Mais on parle de ça. On dit, on parle beaucoup de mots d'emprise. L'emprise, c'est l'art. C'est le truc à la mode. Tout le monde est sous emprise.
Par définition, le charme est une emprise.
Mais par définition, l'amour est une emprise. Quand on tombe amoureux, on tombe un peu sous l'emprise et parfois on perd un peu la raison. D'ailleurs, on dit
l'amour a ses raisons.
Que la raison ne connaît pas. C'est l'adage populaire.
J'entends très bien ce que tu dis.
Mais je ne parle pas de Bruel.
Il y a une question.
C'est pour ça que le terme d'emprise, moi, il faut le prendre avec des pincettes.
Ben non, parce que quand une personne se fait tabasser par un mec et qu'elle a peur de le quitter,
mais c'est ça,
le contrôle coercitif, c'est tout ça.
Quand tu es une vedette, quand tu es une star, effectivement, tu dois pouvoir aussi faire la différence entre j'y vais et elle accepte parce que je suis une star alors qu'elle veut pas. Tu vois, c'est là où tu dois pouvoir aussi faire la différence.
C'est pas l'exemple que donnait Abel.
Non,
Abel,
je répondais à ce qu'on disait tout à l'heure avec Antoine.
Ouais, voilà. Elle disait la femme y va et puis après elle se rend compte qu'elle a pas dû y aller.
Et c'est la conscience de la relation de pouvoir.
J'ai pas dit.
C'est la conscience de la relation de pouvoir et de la relation de domination. Parce que vous voyez, pour l'avocat Patrick Bruel, pour Flavie Flamand, disait oui, bon, c'est vrai qu'elle était, elle était mineure, mais lui, il était plus âgé, mais il faisait jeune. Je vous montre une photo de l'époque.
La question,
c'est pas de faire plus jeune, c'est-à-dire.
Il a du stère.
Et sur le consentement, quand on est mineur, il n'y a pas de consentement.
Détention provisoire requise. Qu'en dit Olivier pour conclure notre discussion? Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
La place est en prison ou pas?
Bah écoutez, pour moi, oui. Parce que dans mon passé, j'étais gendarme et j'ai dirigé des enquêtes déjà de viols et différents types d'infractions assez graves. Et j'ai déjà vu, bien sûr, des personnes dans le même cas de figure aller en détention provisoire pour ce genre d'affaires. Donc moi, ça me choquerait absolument pas. Après, ce qui est particulier dans son dossier, c'est qu'il y a 3 juges d'instruction et c'est énorme. Ça, par contre, c'est vraiment, ça, c'est hors norme. Ouais. Voilà, clairement.
Donc, il y a quand même des moyens supplémentaires qui ont été mis en place.
Complètement. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, oui, totalement. Moi, un juge d'instruction normal peut traiter une affaire de viol. Moi, quand j'en avais traité une, avec une vingtaine de victimes, il n'y avait qu'un seul juge d'instruction. Donc là, 3 juges, pour moi, c'est effectivement, c'est beaucoup de moyens. Et je pense que c'est important pour contrôler tout ce qui va se passer. Maintenant, le fait qu'il aille en détention provisoire, à titre personnel, ça ne me choquerait absolument pas. Parce que, comme vous avez cité tous les cas, je veux dire, il a largement les moyens de s'enfuir s'il veut partir. Voilà, s'il souhaitait vraiment souscrire à la justice.
Il serait reconnu partout.
Voilà. Non, mais certes, ça n'empêche pas qu'il peut partir, il serait pas forcément.
Oui, enfin. A priori, il a collaboré en garde à vue. Ce qu'on sait, c'est que il est arrivé, il s'est défendu, enfin, il n'était pas là, il a pas invoqué le droit au silence.
Non,
il est plutôt dans l'idée de se défendre, donc de rester là.
Et on peut pas faire.
Le sens de la justice, je termine, je vous tiens pas longtemps, vous inquiétez pas. Le sens de la justice, à mon avis, c'est plus pour les victimes d'être certain qu'il sera présent au procès. Et effectivement, dans ce cadre-là, c'est plus important pour eux de le garder sous la main.
S'il y a procès.
Alors, vu comment ça part, il y en aura. Enfin, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y en ait.
C'est une autre histoire.
C'est l'instruction qui rendra son avis à la fin. Mais en tout cas, je pense que c'est important qu'ils puissent rester sous la justice pour pouvoir, et surtout pour les victimes, qu'elles soient reconnues en tant que victimes après, ou alors qu'elles soient dégoûtées. Mais en tout cas, c'est important qu'ils soient allés jusqu'à la fin.
Merci Olivier, l'ancien enquêteur. Merci d'avoir été avec nous, Olivier, au regard du dossier, la détention. Provisoire lui semble normal. Et vous, qu'en dites-vous? On va regarder votre sentiment, votre conviction. Vous dites oui, c'est normal qu'il soit incarcéré à plus de 65%. Dans un instant, il y a grève à la SNCF aujourd'hui pour dénoncer les conditions de travail terribles, ouverture à la concurrence. Est-ce qu'elle se voit, cette grève SNCF aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez les cheminots? C'est au 32-16 qu'on en discute, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Vous êtes avec nous en direct jusqu'à midi avec Fatima Hidbounois, avec Antoine Dierce et avec Abel Boyi. De quoi va-t-on parler maintenant dans les GG, dans les grandes gueules, de la grève à la SNCF? Oui, il y a une grève SNCF aujourd'hui. Alors, elle se voit ou elle se voit pas? Vous venez nous dire ça au 32-16. La SNCF, grève de 24 heures, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, ça touche les trains régionaux.
Oui,
c'était Richard Anthony.
Mais bien sûr, à son âme.
Trains régionaux, trains de banlieue qui sont ouverts à la concurrence et sont les 4 syndicaux. C'est une grève unitaire, ça faisait longtemps que ça n'avait pas eu lieu.
Parce que les 4 syndicaux. J'allais dire la grève.
4 syndicats.
On a l'habitude. Bon. La grève, on a l'habitude à SNCF, mais là, la petite originalité, c'est que c'est la première fois depuis 2024 que tous les syndicats sont d'accord entre eux. Alors, ça a été quand même la galère, notamment sur le réseau TER en Normandie. Il y a des TGV annulés. Bon, après, les gens anticipent maintenant. Et alors, c'est intéressant, c'est de voir les motifs de la grève. En fait, ils font grève parce que la concurrence leur donne trop de travail. Moi, j'ai entendu ça. Il y a une souffrance au travail parce qu'il y a une nouvelle concurrence. C'est imposé par la loi, d'ailleurs. On le voit notamment sur les TGV, sur un Paris-Marseille, concurrence italienne. Et visiblement, le management leur impose aux cheminots plus de travail et certains ne suivent plus. Alors, est-ce que vous comprenez les motifs de la protestation cette fois-ci ?
Antoine ?
Alors déjà, moi j'aime bien cette grève parce que elle se voit pas. Ce matin j'ai très bien voyagé, le train était maintenu et il y avait pas grand monde.
C'est une grève de droite.
Et ils m'ont prévenu de l'annulation de mon train de 13h15. Donc je suis informé que mon train de 13h15 est annulé et donc je prendrai celui de 15h45. Bon, ils me font quand même perdre 2h30, mais je suis prévenu. Voilà, on se pointe pas, c'est fini le truc où on se pointait à la gare et où on découvrait que son train n'était pas là. Donc ça c'est appréciable. Ensuite, moi je suis effaré par les motifs de la grève. Mais t'as un peu le sentiment que ils disent bon les gars, on fait grève mardi et attends, faut qu'on trouve un motif. Gérard, alors on va dire quoi cette fois-ci? Le pouvoir d'achat, on l'a fait la dernière fois, le pouvoir d'achat, faut trouver autre chose. Les conditions de travail. Oh, cette fois-ci, alors c'est
le pouvoir d'achat fait partie aussi des revendications. Voilà. Bon. Il demande une hausse de salaire pour faire face à l'inflation.
Ben, en réalité, t'as le sentiment que c'est régulier, que ça revient tout le temps, que c'est les marronniers, mais au moins...
Est-ce que ça favorise pas la concurrence de faire grève aussi? C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que ça donne raison à ceux qui disent il faut casser le monopole de la SNCF.
Ah, moi, je l'ai toujours dit. Mais pour l'instant, la fin du monopole, elle est quand même un peu timide. Mmh. Et c'est ça qui est peut-être décevant pour les usagers, c'est qu'on n'a pas de vrai chambardement.
T'as déjà pris le train d'Italia? Il y a quelqu'un d'entre vous qui a
pris les nouveaux. Pourquoi c'est timide? Ouais. C'est parce que les tarifs sont très chers. En général, quand tu fais de la concurrence, c'est pour tirer les prix vers le bas. Donc autant il y a des raisons que je...
La concurrence sur les TER va arriver. Je pense que là, on va s'en rendre plus compte parce que c'est le train du quotidien.
Il y a la question de la concurrence. T'as aussi la question du fait qu'il y a des discussions politiques pour qu'à l'avenir, le site de la SNCF puisse vendre les billets justement des compagnies concurrentes. Mais moi, il y a une question qui me taraude, c'est pourquoi il y a toujours autant de suicides. On est quand même à 13 suicides depuis le 1er janvier. Donc c'est bien quand même qu'il y a un problème de bien-être au boulot. Oui, donc alors... après, on peut caricaturer, ils sont fainéants. Ils sont à la retraite à 35 ans,
sur les
d'accord.
Suicides parce que tu
ah, c'est des faux suicides,
non,
c'est ça.
Mais non, mais pourquoi
ils seraient forcément liés au boulot?
Je pense que ça serait pas forcément lié aux conditions
toi,
de travail.
Tu viens dire que c'est forcément lié. Ouais. Moi, je dis attention parce que un suicide, il faut être attention à la récupération d'un suicide. C'est toujours multifactoriel.
Donc toi, ça, tu subodores que la SNCF récupérerait certains cas parmi les 13 cas de suicide.
J'espère pas parce que ça serait détestable.
Et ça fait des années qu'il y a un certain nombre de suicides. Donc pourquoi est-ce que il y a une telle ambiance délétère? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser aussi.
Thomas veut intervenir dans les Girondins. On donne la parole à Fatima. Pouvoir. Bonjour Thomas.
Bonjour à vous.
Bonjour. Je sais pas, vous avez été impacté, vous en êtes aperçu ou pas, dites-moi.
Alors non, honnêtement, j'en avais pas lu l'utilité ces jours-ci, mais en fait, c'est le principe, c'est toujours nous trouver un sujet pour dire ah ben on fait grève. Alors oui, là c'est une petite grève, on n'en parle pas beaucoup. En plus, avec la malheureuse actualité de cette pauvre Liana, c'est vrai qu'on avait autre chose à penser. Mais pour le principe, voilà, moi j'en ai marre en fait que les gens soient toujours pris en otage, que la SNCF trouve toujours un truc bidon, n'importe quel motif. Vous verrez que cet été, ils vont encore trouver des excuses pour encore faire des grèves, peu importe le motif, ils vont recommencer. Donc en fait, après quand j'entends Monsieur Bouy pour les suicides, je comprends que malheureusement ça puisse exister, et j'en suis désolé, c'est pas ça que je reproche, mais comment on faisait au début de la SNCF quand ça a été créé? Il y avait des conditions beaucoup plus difficiles, je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de suicides à ce moment-là. Aujourd'hui, on a des technologies de pointe, on peut le dire, on est quand même dans une ère moderne, et les gens se suicident. Bon, c'est pas que le travail, ils ont dû avoir d'autres problèmes malheureusement. Mais pour revenir au sujet, oui, non, c'est abusé. Je suis désolé, mais ils nous font chier. À un moment donné, excusez-moi, mais c'est la vérité. Ils trouvent toujours un prétexte pour nous embêter, pour faire qu'il y ait toujours un problème. Donc au bout d'un moment, je comprends qu'il y a des pénibilités encore pénibles.
Après, ce que je comprends, moi, c'est la pénibilité. Genre, c'est vrai que c'est moins physique aujourd'hui de conduire un train, mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a la concurrence qui arrive, ils sont en train de réorganiser la SNCF, ils ont créé des filiales, il y a 27 000 salariés de la SNCF qui vont être donc liés à cette concurrence, transférés dans des filiales locales, donc il y a un nouveau management, et visiblement ce nouveau management, alors peut-être qu'il est mal expliqué, mal emmanché, mais c'est ça qui pose problème. Et certains disent, on est en train de faire la SNCF qu'on a fait à l'époque à France Télécom, vous savez quand France Télécom est devenue Orange, est devenue privatisée, bah, il y en a certains qui n'ont pas supporté, il y avait des vagues de suicides et autres. Voilà ce que disent ceux qui font grève.
Je j'entends bien, mais je comprends. Moi, j'ai travaillé dans des différentes sociétés, dans des différents commerces. Quand ça n'allait plus, bah, je partais. Voilà, parce que ça me cassait les pieds, c'était plus comme j'avais connu. Oh, je me barre. J'ai une vie, je tiens ma vie quand même. Elle n'est pas merveilleuse, mais c'est ma vie. Je tiens ma vie, donc je ne vais pas me suicider. Je ne reproche pas aux gens qui ont fait ce geste, mais encore une fois, je peux comprendre qu'il y ait des multifacteurs. Maintenant, encore une fois, je suis désolé. Les conditions que ces gens ont, pour la plupart, sont plutôt tranquilles. Il y a deux ans, quand ils ont fait le...
Ils ont toujours un régime de retraite spécial.
Voilà.
Mais alors, attendez Thomas, parce que je vous coupe, parce qu'on a Mika qui travaille dans le ferroviaire. Bonjour Mika.
Oui, bonjour les GG.
Bonjour.
Bonjour Mika. Vous êtes dans la grève aujourd'hui ou pas Mika?
Non. Alors moi je travaille pour une entreprise privée, allemande, qui utilise des services de SNCF Réseau, puisqu'on fait des trains en France.
D'accord.
Et effectivement, il y a eu un impact, puisque moi, j'ai dû annuler des trains qui ne pouvaient pas circuler, parce que les postes n'étaient pas tenus par SNCF Réseau, et l'encadrement n'a pas été déplacé et mis sur ces postes pour pouvoir ouvrir les lignes. Vous avez par exemple la ligne entre Toul et Culmont-Chalindré, c'est dans l'est de la France, c'est une ligne... Tout le monde passe par là quand on fait des trains de fret, hein, en l'occurrence, mais aussi parfois des voyageurs, entre le nord de la France et le sud de la France. Voilà, quand vous passez par là, c'est ce qu'on appelle l'artère nord-est, et quand vous avez des conditions de circulation qui sont assez particulières, vous devez passer par là. Et cette ligne entre tous les Culmont, elle est fermée.
Et vous comprenez cette grève ou pas, alors, aujourd'hui?
Oui, moi je comprends la grève, absolument. Vous n'avez pas conscience des conditions de travail quand on est à SNCF, quand on travaille dans le ferroviaire. Moi, ça m'est arrivé. Alors plus maintenant, parce que j'ai évolué, donc j'ai un poste un peu plus d'encadrement et donc je fais un peu plus des horaires de bureau. Mais quand j'ai commencé, je pouvais faire le lundi 14h-22h, le mardi 22h-6h, le mercredi 22h-6h, le jeudi au repos, le samedi 6h-14h. Voilà, vous avez des plannings.
C'est le côté horaire décalé qui est le plus dur.
Ouais. Les horaires décalés, honnêtement, c'est ça. Moi, j'ai accepté un poste
pas les seuls métiers.
Avec une perte de salaire pour arrêter les horaires décalés.
Et puis Mika aussi, avec le tout informatique aussi, on a supprimé des postes et on demande à une personne de faire deux fois plus au mépris de la qualité du travail. Hein.
Comme partout.
Les gars ont plus non plus à sortir sous la pluie, la grêle, le vent, le froid pour pouvoir bouger les aiguilles.
Bien sûr.
Quand vous préparez un train, quand vous faites une surveillance de train, vous êtes obligé d'être dehors et croyez-moi, les gars, c'est un métier, je ne veux pas le faire. Même à 20 ans, je ne l'aurais pas fait.
Mika, qui attire l'attention sur les conditions de travail. Merci Mika d'avoir été avec nous dans les GG, dans les grandes gueules. Fin de la discussion, c'était très bien Fatima. C'était très intéressant. Allez, dans un instant, suite des GG avec Jules Denis pour parler de la loi.
Depuis tout à l'heure, il m'a dit plus tard.
C'est 9h midi. Les grandes gueules.